Nous étudions cet été les petits prophètes, chacun avec un grand message. Et nous disons que pour comprendre leur message, ça aide de les situer dans l'histoire du peuple de Dieu, l'histoire du peuple juif, notamment par rapport à ce moment dramatique qui était l'exil en Babylone. Et certains de ces petits prophètes ont parlé avant l'exil, d'autres ont parlé pendant l'exil, et d'autres encore en parlaient après l'exil, au moment du retour. Alors évidemment, ceux qui parlaient avant l'exil, ils avaient un message d'avertissement, de condamnation, de jugement. Le peuple n'a pas écouté, alors déportation, exil en Babylone. Après, il y a eu des prophètes qui ont parlé pendant l'exil, et eux, ils voulaient aider le peuple à comprendre pourquoi le jugement est arrivé, pour qu'il y ait une repentance authentique. Mais aussi, ils ont prononcé des jugements sur les nations autour qui ont voulu embêter le peuple de Dieu, ça pour encourager le peuple pendant l'exil. Et après, il y a eu des prophètes qui ont parlé après l'exil, au moment de retour, et leur message était surtout un message d'encouragement pour fortifier le peuple, pour rassurer le peuple, pour les consoler. Mais il y avait quand même des choses à rectifier. Ce peuple qui avait été parti pendant 70 ans et qui revenait, il y avait un certain nombre de choses à revoir, et donc ces prophètes traitaient de ces choses aussi, tout en ayant surtout un message d'encouragement, fortifie-toi. Alors, Agée, c'est le livre compagnon du livre d'Esdras, que nous avons étudié à peu près il y a un an ici, mais vous connaissez les livres peut-être d'Esdras et de Néhémie, qui se situe avant les psaumes, avant Job, tout ça. Mais Agée, c'est à lire avec Esdras. Et c'est dans ces livres qu'on trouve cette époque où Dieu a permis à ce que le peuple revienne chez eux après 70 ans de déportation. En arrivant dans leur pays, après une absence de 70 ans, vous imaginez, il y avait tout à faire. Il fallait repartir de zéro et tout reconstruire. Reconstruire le temple qui avait été rasé, reconstruire la ville, les murs qui ont été rasés, reconstruire les maisons, recultiver les champs, tout ça. Mais au-delà de ça, il fallait reconstruire une société, il fallait reconstruire la foi du peuple de Dieu, il fallait reconstruire leur espérance, reconstruire leur relation avec Dieu qui avait pris un coup pendant ce temps de jugement et d'exil. Alors, sous la direction des gens comme Esdras, comme Zorobabel, c'était un descendant du roi David, mais c'est un roi sans royaume, donc on va parler de gouverneur ici, ce Zorobabel, il était un des chefs du peuple, et sous la direction des gens comme ça, le peuple a pu revenir, et ils ont commencé ce travail de reconstruction, et ils ont mis des bonnes priorités, ils ont commencé avec la maison de Dieu, avec le temple. Mais pour diverses raisons, que nous allons voir, et ils ont arrêté les travaux. Les travaux sur la maison de Dieu se sont arrêtés pendant un temps. Et c'est là où commence notre histoire en Agée. C'est le peuple est complètement démotivé, découragé. Ils ont fait pause par rapport aux travaux. Alors Dieu envoie son messager, il envoie Agée pour les remotiver, et pour reprendre les travaux de la maison de Dieu, les travaux sur le temple, avec un appel à revoir leurs priorités. Et c'est ça un peu le message du livre, le message d'Agée, comme cette phrase qui revient plusieurs fois, « Considérez attentivement vos voies ». On pourrait dire aujourd'hui, « Examinez vos priorités, revoyez vos priorités ». Tel est le message d'Agée que nous pouvons nous-mêmes appliquer à notre vie. Comme vous savez, dans un grand nombre de domaines, pour bien réussir, il faut bien établir les priorités. Un gouvernement fonctionne comme ça, il parle toujours des priorités, telles sont nos priorités. Une entreprise fonctionne comme ça, votre planning hebdomadaire, vous fonctionnez comme ça. Pour réussir, pour s'en sortir, il faut bien établir ses priorités. Avec la rentrée qui arrive pour nous, c'est une bonne occasion aussi d'examiner attentivement nos priorités pour bien réussir notre vie. Alors, l'appel d'Agée est chercher d'abord la maison de Dieu. Or, puisque ce texte parle beaucoup des travaux sur le temple, on pourrait penser tout de suite à nos travaux du bâtiment situé 195 avenue des États-Unis. Mais ce serait mal appliquer ce texte que de dire que Agé pense à notre bâtiment là-bas et qu'il veut reprocher le BTM parce que le carrelage n'est pas terminé. Une preuve que nous bénéficions des privilèges de la Nouvelle Alliance et que le Saint-Esprit est aussi à l'œuvre parmi nous, c'est qu'il y a eu une grande mobilisation, une grande participation, une grande générosité par rapport à ce projet. Donc ce message n'est pas en aucune manière une reproche sur les travaux des bâtiments là-bas. Tout au long du message, il faut se rappeler qu'aujourd'hui, la maison de Dieu n'est pas un bâtiment 195 avenue des États-Unis, ni 148 avenue des Minimes. La maison de Dieu est un projet spirituel, et en réalité, ça a toujours été un projet spirituel, même dans l'Ancien Testament. À notre époque, ou à l'époque d'Agé, la priorité, chercher d'abord la maison de Dieu, c'est finalement chercher d'abord Dieu et son projet et ce qu'il est en train de faire dans nos cœurs et parmi son peuple. Alors voyons comment Agé nous aide ce matin à chercher d'abord la maison de Dieu. Nous allons voir à travers ce livre tout d'abord la maison délaissée dans les premiers versets, ensuite le peuple réveillé, fin du chapitre 1, et puis la maison remplie dans le chapitre 2. La maison délaissée, dans les premières dizaines de versets, comme vous avez vu, Agé reproche les responsables et puis tout le peuple d'avoir délaissé le travail sur la maison de Dieu pour aller bricoler chez eux. Alors il faut comprendre quand même le peuple, après 70 ans d'absence, ils reviennent et effectivement il faut remettre toute la machine en route, non seulement reconstruire le temple, mais reconstruire la ville, les murs pour la protection. Il fallait recultiver les champs. Qu'est-ce qui se passe quand on délaisse un champ pendant 70 ans? Ben, le blé ne pousse pas tout de suite. Il fallait reconstruire les maisons. Donc, dans tout ça, qu'est-ce qui est le plus important? Un temple, les champs pour manger, une maison pour dormir, des murs pour se protéger contre les ennemis. Qu'est-ce que vous faites d'abord? Où est-ce que vous mettez les priorités? Eh bien, au début, avec Esdras, ils se sont confiés à Dieu. Dieu va s'occuper de nous, on va mettre la priorité sur la maison de Dieu pour qu'on puisse faire un culte à son honneur. Alors, ils ont commencé à rebâtir le temple, mais les travaux se sont arrêtés parce que justement, il y avait un problème de permis de construire. En fait, ils avaient un permis de construire, mais il y avait un micmac avec l'administration babylonienne. Il y avait des personnes hostiles à ce projet qui ont écrit des lettres recommandées à Babylone pour mettre fin à ce projet. Et donc, une lettre recommandée est revenue en disant « Vous arrêtez les travaux, vous n'avez pas le droit. » Alors qu'ils avaient le droit, mais il fallait s'en sortir dans tout ça. Et ils avaient bien des obstacles pour construire cette maison. Vous pouvez lire tout ça en Esdras et Néhémie. Donc, à cause de tout ça, le peuple est arrivé à cette conclusion en verset 2. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu. Le temps n'est pas venu. C'est pas le moment. C'est pas le moment de Dieu. C'est pas le temps de Dieu pour bâtir cette maison. C'est certainement une porte fermée. Nous, les évangéliques, nous aimons parler comme ça aussi. Ah, c'est pas le temps de Dieu. C'est pas le moment de Dieu. Quand ce sera le temps de Dieu, là, je le ferai. Mais je laisse Dieu décider le temps. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils ont mal interprété les obstacles comme étant des signes que ce n'était pas le moment de Dieu ou ce n'était pas la volonté de Dieu. C'est une de nos habitudes aussi, c'est de discerner la volonté de Dieu à partir des circonstances favorables ou défavorables que nous pouvons rencontrer dans notre quotidien. Une circonstance défavorable, c'est une porte fermée. Et donc, on ne fait pas. Et c'est vrai que Dieu, parfois, nous dirige avec des circonstances, mais ce n'est pas toujours une méthode fiable pour discerner la volonté de Dieu. Ce peuple, ils avaient une révélation claire, ils avaient toute leur Bible, la loi de Moïse, les prophètes, qui indiquaient clairement qu'il fallait rebâtir cette maison. Et même s'il y avait des obstacles, il ne fallait pas interpréter ça comme... ce n'est pas le moment dans le plan de Dieu. C'était le moment. Il y avait des obstacles, mais c'était le moment d'obéir et de garder Dieu en priorité dans leur vie. Donc, pour certaines choses, on n'a pas besoin de se poser si c'est le moment de Dieu ou le temps de Dieu pour faire ou pas. C'est-à-dire, ça ne marche pas de dire « le temps n'est pas venu d'aimer mon conjoint ». Là, non, c'est toujours le moment, toujours le temps d'aimer son conjoint, même si il peut y avoir des circonstances défavorables. On ne peut pas dire « le temps n'est pas venu de régler mon problème de colère ». Non. On ne devrait pas dire « je vais m'impliquer dans l'Église si Dieu le veut ». Ben, on peut savoir « Dieu le veut ». Évidemment, il y a des choses concrètes où on peut, c'est très légitime de dire « c'est pas le moment, c'est pas le moment pour moi cette année de faire Éphèse, c'est pas le moment, le temps n'est pas de s'engager dans la chorale ». Ça, c'est des choses légitimes. Mais dire par exemple « ah, le baptême n'est pas une priorité pour moi cette année » ou « m'investir dans une vie d'église, je sens que c'est pas le moment ». Tout ça, ce langage est étranger à la Bible parce que Dieu nous a déjà révélé clairement quelles doivent être nos priorités, notamment lui et ses projets pour nous et sa maison. Et il y aura toujours des obstacles pour nous dérouter. Mais devant Dieu, cette excuse ne tient pas. Ah, ce n'est pas le temps, parfois. Je me souviens le jour où je voulais demander à Rebecca de m'épouser. C'était un samedi, je me souviens. Il y avait que des circonstances défavorables et des portes fermées. Alors, je voulais partir, j'avais un tel projet, je voulais partir, mais non, elle devait faire son linge, et puis je voulais quand même partir, mais non, elle devait faire son pique-nique, et puis je voulais quand même partir, mais non, elle avait un train à prendre à 7h, mais je voulais quand même partir, mais non, il fallait passer au magasin. Alors, elle avait un rendez-vous, je me dis, mais comment je m'en... Est-ce que ce sont des portes fermées? Heureusement, je ne me suis pas laissé... prendre, et j'ai quand même poursuivi l'idée de lui demander de m'épouser. Donc, n'attendez pas l'absence d'obstacles pour vivre pour Dieu, pour mettre Dieu en priorité dans votre vie. Non, on entend souvent des gens donner une explication d'une décision qu'ils prennent en disant « ça, ce n'est pas une priorité pour moi en ce moment ». Souvent, c'est très légitime de dire ça, ce n'est pas une priorité pour moi en ce moment. Mais âger, le souci d'âger, c'est qu'on ne dise jamais ça à Dieu. À Dieu, c'est pas une priorité pour moi en ce moment. C'est ça le problème. Et Israël, en négligeant la construction du temple, à ce moment, à cette époque, c'était une manière de dire, bon, Dieu, ce n'est pas une priorité pour nous en ce moment. Sa présence parmi nous, bof. Donc c'est cette attitude que Agé veut corriger. Parce que dans la Bible, tout au long de la Bible, le temple, la maison de Dieu, représente la présence de Dieu qu'il veut accorder à son peuple. Il veut, depuis le début de la Bible jusqu'à la fin de la Bible, Dieu dit à l'homme, je veux habiter parmi vous, je veux vous rencontrer régulièrement, je veux être en communion, donc je fais le nécessaire malgré le barrière du péché, je fais le nécessaire pour aller vers vous. Et dans l'Ancien Testament, c'est d'abord ce tabernacle et puis ce temple qui représentait cette démarche de Dieu de vouloir habiter parmi son peuple. Et en cela, le temple, la maison de Dieu dans la Bible est très différente que les autres religions. Toutes les religions ont des temples, beaucoup de démarches spirituelles ont des bâtisses pour représenter Dieu. Mais la conception du temple dans la Bible est très différente des autres religions. Dans les autres religions, et on pourrait se tromper en lisant ce premier chapitre ainsi, dans les autres religions, c'est un peu, vous me faites une maison, et moi, en retour, je vous dépanne, ou je vous donne une bonne récolte, ou je vous donne une place au paradis. Donc c'est donnant-donnant, c'est une espèce de chantage entre le peuple et leur Dieu. Si vous me faites ça, je vous fais ça. Mais Agé chapitre 1, c'est pas ça. Dieu est clair dans toute la Bible, il dit, je suis pas un SDF que vous devez gentiment loger dans une petite boîte que j'attends que vous me construisiez. Dieu était clair en disant, j'habite pas les maisons faites de main d'homme. C'est pas ça la raison de construire un temple. Et justement, beaucoup pratiquent une religion, beaucoup bâtissent des temples, pas pour s'approcher de Dieu, mais pour garder Dieu à une distance sécurisée. Si on lui fait une boîte, une maison, il habite dans sa maison et il reste là. Comme ça, c'est à nous de choisir les horaires et les moments où on peut aller le rencontrer. C'est à nous de déterminer quelle priorité il aura dans sa vie. Quand je vais dans sa maison, là, il a le droit de regarder mes affaires. Mais quand je vais dans ma maison, il reste dans sa maison et c'est le respect de la vie privée. C'est comme ça que les religions fonctionnent finalement. Mais Dieu n'a jamais été comme ça. Dieu dit, je veux être au milieu de vous, je veux être prioritaire dans vos affections, dans votre amour. Alors c'est pour ça que je vous demande de construire une maison. C'est cette démarche, ce qui représente une démarche spirituelle, une démarche de foi, vous voulez de moi. Et ce que Dieu cherchait avant tout à cette époque avec Agé et Zorobabel, c'était de restaurer la communion avec le peuple. Et finalement, ce refus de bâtir la maison était un refus de la présence de Dieu. C'est ça qui était dramatique. On voit ça en chapitre 2, verset 17. Il dit, « Malgré tout cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Considérez attentivement. » Donc, ils sont revenus dans le pays, mais Dieu se demande si vraiment... Le tout, c'est pas revenir dans le pays. Le tout, c'est pas revenir à Jérusalem. Le tout, c'est revenir à Dieu. Et c'est ça le souci de Dieu. Alors c'est pour ça qu'ils veulent mettre une priorité sur ses affaires, sur sa maison. Ça traduit la démarche du cœur de vouloir revenir entièrement à lui. Et pour nous, la question, les priorités restent les mêmes. C'est Dieu que nous voulons. C'est lui que nous voulons être priorité dans notre vie. Alors, oui, on va vous dire de participer à une vie d'église, on va vous dire de lire la Bible, on va vous dire ces choses qui doivent être priorité dans la vie du chrétien. C'est pas juste pour donner des règles comme ça. Le plus important, c'est pas le nombre de chapitres que vous lisez. Le plus important, c'est que vous cherchez Dieu, que vous voulez que Dieu est près de vous, avec vous, marchez avec lui. Alors, quelle voie? Quand j'ai dit « considérez attentivement vos voies », quelles voies, quels gestes, quelles pratiques témoignent dans notre vie personnelle que nous voulons la présence de Dieu et que nous ne sommes pas juste en train de le reléguer à quelques heures ou à quelques lieux, mais que nous le voulons partout dans notre vie. Voilà ce que nous apprenons de cette maison délaissée. Et Agé appelle le peuple à considérer attentivement leurs voies, les priorités pour reprendre la construction. Et Dieu aurait la joie de les voir apporter du bois et construire la maison, parce que ça témoigne de leur amour pour lui. Ensuite, en avançant dans un texte, nous voyons le peuple réveillé dans les versets 12 et suivants. Alors, j'ai bien aimé ces versets, parce que dans les petits prophètes, on a plutôt l'habitude de voir des gens qui n'écoutent pas la voix de Dieu. Et c'est parfois déprimant, décourageant de lire cette condamnation, ce peuple qui s'obstine à ne pas écouter, comme souvent c'est le cas. Mais ce n'est pas le cas ici. Le message d'Agé a fait un travail dans les cœurs. Et dans l'espace de 3 semaines, si vous comptez les semaines et les mois qui sont précisés, vous voyez que les travaux reprennent. Donc, Agé a donné un premier message, et puis 3 semaines plus tard, ils se mirent à l'œuvre dans la maison de Dieu des armées, l'Éternel des armées, leur Dieu. Et donc, ils reprennent la construction, et dans le livre d'Esdras, on sait qu'ils vont achever le temple. Beau projet qui termine. Tout ça parce que, selon verset 14, l'Éternel a réveillé l'esprit d'abord des responsables, et puis tout le peuple, pour qu'ils se mettent à l'œuvre. Et ça, c'est beau de voir un réveil comme ça. On a ici un aperçu d'un réveil comme Dieu a pu faire tout au long de l'histoire de son peuple. Un réveil, on dirait, c'est quand plusieurs à la fois entendent la parole de Dieu, prennent conscience, souvent des évidences, mais ils prennent conscience de ces évidences d'une manière toute nouvelle, et puis avec un zèle, un engouement qui n'était pas avant. Si vous regardez bien, Agé ne leur donnait pas de nouvelles informations. Oui, Agé ne faisait pas de miracles pour produire ce nouvel élan. Non, ils ont pris conscience qu'effectivement, Dieu devait être la priorité dans leur vie, que sa maison devait être priorité, qu'il était là pour les aider. Et donc, tout ça, c'est grâce à Dieu qui a travaillé dans les cœurs pour les attirer à faire ce travail. Et ce que nous pouvons voir encore aujourd'hui, ça existe quand Dieu réveille les esprits. On trouve parfois plusieurs églises, plusieurs responsables d'église, souvent c'est plusieurs à la fois qui prennent conscience et qui redonnent priorité aux choses importantes, aux choses essentielles dans la Bible, comme Jésus-Christ, comme l'évangile que nous devons annoncer, que nous devons aimer, maîtriser pour soi-même, comme la mission qui annonce son salut. C'est voilà, le réveil, c'est quand les jeunes redonnent priorité à ces choses. Alors c'est sûr, c'est une évidence, mais parfois on a mis ces choses sur pause pour diverses raisons, à cause des épreuves, à cause des obstacles où c'est difficile. Et puis non, Dieu réveille les esprits, on revient à l'essentiel. Cela ne veut pas dire, quand on retrouve les bonnes priorités, que c'est fini les difficultés et les obstacles. Les temps de réveil et de bénédiction ne sont pas des temps sans obstacles. Au contraire, souvent, ils vont de pair. D'ailleurs, tout ce temps de retour au pays était un moment fort pour les Juifs. C'était un moment de réveil. Dieu avait réveillé l'esprit de Cyrus, le roi babylonien, pour permettre ça. Dieu avait réveillé l'esprit d'Esdras et de Néhémie pour entreprendre ces choses. Donc, c'était un temps de réveil, de victoire, de joie. Mais ce n'était pas encore le paradis sur la terre, ce n'était pas la perfection parmi le peuple de Dieu. On se dit parfois, si seulement on pouvait vivre à telle ou telle époque de la Bible, ce serait merveilleux. Le temps d'Esdras et de Néhémie avec cette reconstruction. Oui, c'était un temps merveilleux, mais c'était un temps avec de nombreux obstacles, même parfois des bêtises parmi le peuple de Dieu. 3 mois plus tard, on n'a pas lu ces versets, mais le chapitre 2, il y a un problème de pureté. Il y a un problème, ils offrent des sacrifices souillés, ce qui était quand même grave, mais Agé doit les reprendre pour ça. Et ça, c'est parmi un peuple réveillé, un peuple où Dieu était à l'œuvre. Il y avait son problème. Bon, Dieu a dû les aider pour ça. Ou bien regarder le début de l'Église avec les apôtres. Voilà, un moment de grande conversion, des églises qui s'implantent, les apôtres qui circulent, c'est merveilleux. Mais vous lisez les actes et les épîtres, vous verrez que la vie n'était pas toujours rose, les églises avaient des problèmes, il y avait des tensions parfois à régler, on trouvait le péché, l'imperfection, même parmi le peuple de Dieu, mais il ne faut pas discréditer non plus l'œuvre que Dieu faisait. Ce n'est pas parce que les chrétiens sont imparfaits que Dieu n'est pas à l'œuvre ou que Dieu ne veut pas, que Dieu n'est pas parmi nous. Donc, retenez cela, il y a toujours de quoi nous démotiver à vivre pleinement pour Dieu. Il y a toujours des choses à corriger dans l'Église. Il y a toujours des choses qui nous déçoivent. Mais le message d'Agé, c'est fortifie-toi. Fortifie-toi et travaille. On voit dans le chapitre 2 notamment, ça semble être un problème, un découragement. Donc Dieu, par Agé, l'aborde directement. Versets 3 et 4. Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Il parle là du temple de Salomon, dans sa gloire première. Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? C'est-à-dire, certains, avec ces travaux, sont déçus des résultats. Il y avait l'opposition, mais en plus, ils disent, oh là là, c'est quand même nul par rapport à notre temple d'avant. Alors, à quoi bon? Et puis, ils sont découragés, et c'est facile à décourager les autres en disant, mais là, c'est pas beau ce que vous avez fait, t'as pas vu le temple de Salomon? Là, c'était beau, mais ce que je vois là, c'est minable. Et il y avait cette déception. Mais Agé traite cette déception en disant, non, Dieu est avec nous, c'est quand même un réveil qui produit parmi nous, alors fortifie-toi, travaille. Et finalement, la question se pose, qu'est-ce qui valait mieux? Vivre l'époque avec le temple de Salomon dans toute sa gloire, mais le peuple en déclin spirituel, ou vivre une époque où le peuple est en réveil, en obéissance et un bâtiment moins glorieux?
c'est pareil, on pourrait faire les mêmes comparaisons aujourd'hui. Qu'est-ce qui vaut mieux, une grande église avec un beau bâtiment mais qui est en train de perdre l'évangile, ou une église avec un bâtiment pas top mais qui est en train de mettre l'évangile, et qui est passionné de l'évangile et qui l'aime et qui suit Jésus-Christ, qui, où lui les priorités dans le cœur. Il vaut mieux regarder la tendance, la trajectoire, où est la vraie, où sont les vraies priorités. Bien sûr, une grande église peut être en train de vivre l'évangile, redécouvrir l'évangile, une petite église peut être en train de le perdre. C'est pas tant la taille, c'est est-ce qu'on cherche d'abord Dieu et son amour et sa volonté. On peut avoir la nostalgie d'autres époques ou d'autres pays, mais pour agir, le plus important, c'est est-ce que Dieu est avec nous. Et c'est ce que Dieu veut les, il veut les rassurer. À maintes reprises, il dit, fortifie-toi, mon esprit est au milieu de vous. Je suis avec vous. Donc, travaillez. Si c'est ça notre souci, notre priorité, encore aujourd'hui, que Dieu soit avec nous, que son esprit soit au milieu de nous, alors peu importe tout le reste. Voilà un signe d'un peuple réveillé, c'est que ils ont cette priorité que Dieu soit pleinement parmi eux. Donc on a vu la maison délaissée, on a vu le peuple réveillé, et enfin la maison remplie, pour nous aider à bien fixer nos propres priorités. Ça c'est les versets suivants, notamment versets 6 à 9 dans le chapitre 2. Donc pour les stimuler dans ce projet de reprise des travaux, Agé va maintenant leur donner un aperçu du projet achevé. Vous savez, vous allez dans une gare ou dans un aéroport où il y a des travaux, et parfois ils enferment le chantier avec des panneaux, et sur ces panneaux il y a un dessin où c'est imprimé ce à quoi ça va ressembler une fois que les travaux sont finis. C'est juste la conception d'un graphiste, mais normalement ça vous aide à endurer la gêne occasionnée par tous les travaux en voyant, ah oui, voilà à ce quoi ça va ressembler, c'est beau ce qu'ils font. Ou bien on est plus motivé à faire un puzzle de 1000 morceaux quand on a la boîte, l'image sur la boîte, et là, même si on n'est pas bien avancé, on se réfère à la boîte et on ne se décourage pas trop. Alors c'est ce que Agé fait ici, il donne un aperçu du projet final, un projet achevé, le temple fini, pour qu'ils sachent que ce qu'ils font là, au quotidien, ça a un sens, et il y aura un jour une conclusion glorieuse. Et c'est ce qu'il fait dans les versets 6 à 7, il annonce notamment que cette maison sera remplie de gloire, et même les trésors de toutes les nations vont venir et remplir cette maison. Puis il dit que cette maison sera plus grande et plus glorieuse que le premier temple de Salomon. Et c'est là où ça devient intéressant, parce qu'on connaît le temple, le second temple construit par Zorobabel, a été agrandi par Hérode le Grand à l'époque peu avant Jésus, mais ce temple-là aussi a été détruit. Comme le temple de Salomon détruit par les Babyloniens, le temple de Zorobabel a été détruit par les Romains. Et pourtant, Agé annonce cette maison qui sera glorieuse et remplie des trésors de toutes les nations. Et puis ce verset 7, 6 et 7 sont cités par le Nouveau Testament pour parler de la fin des temps. Donc Agé, le portrait de sa prophétie, va bien plus loin que Zorobabel et ce temple qu'ils sont en train de construire. Alors comment comprendre tout ça, quelle conclusion tirer, c'est quoi le projet final, c'est quoi cette maison qui sera remplie de gloire, remplie des trésors de toutes les nations. Et c'est là où nous voyons que la maison de Dieu à Jérusalem, la maison de Dieu n'a jamais été juste un bâtiment à Jérusalem. Le temple, le vrai temple, c'est Jésus, c'est ce que Jésus il va venir lui-même. Il va évoquer ce temple de Zorobabel, amélioré par Hérode le Grand. Il va dire que tout ça, c'est rien à côté de sa propre personne. Un jour, il a dit, détruisez ce temple et je vais le rebâtir en trois jours. Les gens pensaient qu'il parlait de ce temple ici, mais il parlait de lui-même, de son corps. Ça, c'était le vrai temple. Et donc, la portée âgée, le projet final, va bien au-delà d'un bâtiment et parle de toute la personne de Jésus-Christ et la maison qu'il est en train de former par sa personne, notamment son peuple. Et cette idée que les trésors des nations viennent remplir la maison, ça c'est d'abord les païens, les peuples du monde entier qui viennent à Jésus-Christ par la foi, qui entrent dans la famille de Dieu, qui entrent dans la maison de Dieu, apportant toute leur personne, tout leur cœur pour vouloir le suivre. On a un petit aperçu de ça quand les mages sont venus apporter des trésors. Justement, ils n'ont pas apporté des trésors au temple à Jérusalem. Ils ont apporté des trésors à un bébé à Bethléem. Et on voit que là, c'était la vraie démarche de foi, de mettre Dieu en priorité dans la vie. Et puis, ce n'est pas tout. Tout à la fin de la Bible, on reprend cette idée que les nations viennent remplir la maison de Dieu pour décrire le paradis, pour décrire le nouvel Jérusalem. Et là encore, les versets d'Apocalypse disent qu'il n'y a pas vraiment de temple physique, mais le temple, c'est Dieu lui-même qui habite enfin avec son peuple. Et donc ça, ce moment-là, sera effectivement bien plus glorieux et grand que le temple de Salomon. Alors ce que nous sommes en train de vivre, même aujourd'hui, où les nations viennent à Jésus-Christ, c'est l'accomplissement de ces prophéties d'Agée. Et ça, c'est stimulant. C'était stimulant pour eux, c'est stimulant pour nous, de savoir que l'œuvre à laquelle ils participaient était une œuvre éternelle. Même les Romains, quand ils rasaient le temple, ils ne mettaient pas fin à leur projet. Et la question pour nous aussi, est-ce que vous voulez prendre part à un projet provisoire, un projet éternel ? Est-ce que vous voulez prendre part à un projet qui a une gloire passagère, comme le temple de Salomon, ou une gloire permanente, comme l'œuvre de Jésus-Christ? Et vous voyez maintenant comment ça nous aide à établir nos priorités dans notre vie quotidienne. Qu'est-ce qui va jusqu'à dans l'éternité? C'est ces choses-là dans lesquelles je veux m'investir. Et c'est aussi ce que Agée leur rappelle avec ce verset où là il parle de la fin des temps, verset 6, où encore un peu de temps, j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec, j'ébranlerai toutes les nations. Dieu dit, il va tout ébranler. Et les auteurs du Nouveau Testament reprennent cette idée pour parler du jugement final, où tout va être secoué, tout va être ébranlé. Peut-être vous avez construit quelque chose et pour voir si c'est solide, vous secouez un peu. Si ça casse ou ça tombe, vous savez, faut recommencer. Si ça tient, c'est que vous avez bien travaillé. Eh bien, nous savons que nos vies, tôt ou tard, vont être secouées par les circonstances, par les épreuves, par le jugement même de Dieu. Nos vies vont être secouées, ébranlées. Et à ce moment, la question est, est-ce que ça tient? Est-ce que c'est solide? Et nous savons, selon la Bible, que oui, tout ce qui fait d'homme va être mis à terre, va pas tenir. Ce qui fait par Dieu, avec Dieu, va tenir quand tout est ébranlé. Et c'est pour ça que Dieu insiste tellement à être la priorité dans nos vies. Parce qu'il sait que tout le reste, quand c'est ébranlé, ça tombe. Ça donne pas satisfaction. Et donc, il voulait que son peuple investissent leur temps dans des choses qui durent éternellement et pas dans les, comme il dit, comme des sacs percés ou leurs vêtements, leur propre maison lambrisée, tout ça. Ça va être ébranlé, ça va partir. Mais la maison de Dieu ne sera pas ébranlée, sera toujours solide. Donc, nous voulons investir nos vies dans la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, c'est son projet par Jésus-Christ de se construire un peuple pour l'éternité et d'inviter le monde à entrer dans cette maison, entrer par la foi dans son royaume, dans sa maison. Et il nous rappelle que nous avons, nous les chrétiens, un royaume inébranlable. Les royaumes de ce monde, les projets de ce monde vont être ébranlés. Mais le royaume de Dieu, la maison de Dieu, ne sera pas ébranlée. Et c'est pour ça qu'il doit être une priorité pour notre vie. Alors cherchez d'abord la maison de Dieu, cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes les autres choses vous seront données par-dessus.